Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour, Raymond Boudon vient de signer un livre qui tombe à point nommé dans le débat politique actuel. Ce livre s'intitule « Renouveler la démocratie, éloge du sens commun » paru chez Odile Jacob cette année. Le sociologue, l'académicien, le professeur émérite à la Sorbonne fait l'éloge de la démocratie représentative contre la démocratie participative en ce moment à la mode. Un débat qui permet un coup de projecteur essentiel sur les hésitations politiques actuelles et permet de resituer la question des fondements de la démocratie, fondements qui vont de la philosophie des Lumières au libéralisme, courant de pensée que Raymond Boudon juge les plus probants, et appelé à le redevenir face aux idéologies héritées du XIXe siècle qui aboutissent, dit-il, au relativisme. Raymond Boudon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu dans nos studios pour étayer les thèses de votre livre. Déjà, quand vous avez décidé de publier ce livre, est-ce que vous aviez en vue ce calendrier électoral à venir ?
Ben, Pascal dit quelque part que ce qu'on met dans un ouvrage en dernier, c'est ce qu'on imprime en premier. Alors effectivement, une fois que j'ai réuni ces différents textes de réflexion sur la démocratie, probablement, dans mon subconscient, quelque part, j'ai entendu le mot « démocratie participative ». J'ai entendu aussi la proposition selon laquelle la démocratie participative, ça serait mieux que la démocratie représentative, ce que je ne crois pas du tout, mais on va peut-être en reparler. Donc, probablement, l'actualité a joué un rôle lorsque j'ai rédigé le début du livre, en tout cas.
Alors, commençons par le début de votre démonstration. Vous dites que le sens commun est vidé de sa substance par une idéologie relativiste, en d'autres termes, que la vision de l'homme tiraillée par des forces psychologiques, sociales, culturelles et biologiques qui lui échappent en grande partie, l'emporte aujourd'hui sur une vision de l'homme maître de ses opinions, spectateur impartial, et vous le regrettez.
Oui, alors, si on peut dire un mot de cette question assez difficile d'histoire des idées en réalité, il s'est passé un mouvement très important qui commence au XIXe siècle, et qui commence avec les grands noms de Marx, de Freud, essentiellement. Et ces grands noms ont quelque chose en commun, c'est que l'homme est considéré comme n'étant plus au centre de lui-même. Il est considéré effectivement comme agi, comme une sorte d'être passif. Alors, ça c'est une rupture complète par rapport à la tradition des Lumières, par rapport à la tradition libérale de manière générale, qui au contraire fait de la liberté ou de l'autonomie de l'être humain le point de départ, le principe essentiel de l'analyse non seulement des phénomènes psychologiques, mais aussi des phénomènes sociaux ou des phénomènes politiques. Alors, ce qui s'est passé ensuite au XXe siècle, c'est que ce mouvement de pensée hétéronomiste, qui fait de l'homme, qui donne de l'homme une vision hétéronome, n'a fait que croître et embellir par des auteurs qui sont certainement mineurs par rapport aux très grands dont je viens de citer les noms, comme Marx ou Freud. Mais si l'on pense à un certain nombre de gens qui en France ont été à la mode pendant les années 60, autour des années 60 essentiellement, des gens comme Barthes, comme Foucault ou comme Bourdieu, ils ont tous quelque chose en commun, quelle que soit leur diversité, c'est de considérer que l'homme est aveugle par rapport à lui-même, qu'il est fondamentalement hétéronome, qu'il est fondamentalement agi par des forces extérieures, vous l'avez dit, des forces biologiques, des forces psychologiques, etc. Et de cette manière-là était détruite le principe de base de la réflexion politique qui avait installé la démocratie. Parce que la démocratie, ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire qu'en dernière analyse, le pouvoir est détenu par l'individu de base. Naturellement, ça pose des problèmes ensuite institutionnels lorsqu'il s'agit de traduire ce principe sous forme d'institution, notamment lorsqu'il s'agit de démocratie représentative et pas de démocratie directe à la Suisse, bien entendu. Mais le principe de base de la démocratie, c'est tout de même bien celui-là en dernière analyse. Soit la notion de démocratie n'a aucun sens, soit elle veut que le citoyen de base soit responsable de ce qu'il fait, conscient de ce qu'il fait, conscient plus ou moins des raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait, etc. Or, tout ce mouvement d'idées que j'ai essayé de rapidement de vous décrire se situe en contradiction radicale avec ça.
Alors, peut-on balayer, justement, ces mouvements de pensée du 19e siècle et peut-on réellement revenir à des courants de pensée qui nous viennent de la philosophie des Lumières, sachant qu'aujourd'hui, on est voilà, au 21e siècle, avec une pratique de la démocratie qui s'étiole et qui est en pleine crise.
Oui, alors ces mouvements de pensée qui viennent de la philosophie des Lumières, ils ne s'arrêtent pas avec la philosophie des Lumières. Ils ont été prolongés après, au 19e siècle, par de très très grands noms, dont Alexis de Tocqueville, par exemple, en France, Benjamin Constant, etc. Il y en a beaucoup, John Stuart Mill en Angleterre, etc. Il y a donc toute une kyrielle de grands noms qui ont maintenu le principe de base de la philosophie des Lumières, en particulier le principe de l'autonomie. Et ça a continué ensuite jusqu'au 20e siècle, et aujourd'hui, et même je dirais qu'aujourd'hui, ce mouvement tente à renaître, tente à percevoir un peu mieux son importance, je le vois par exemple par la célébration qui a été faite de Tocqueville, etc. Alors, la pensée des Lumières reste d'actualité plus que jamais, enfin, aujourd'hui.
Et Tocqueville qui disait justement que le relativisme prédisait que le relativisme allait être la prochaine idéologie de nos sociétés modernes. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'idéologie relativiste ? Est-ce que ce n'est pas au contraire l'expansion d'un doute, qui serait salvateur ?
Alors il y a une partie salvatrice dans le relativisme, c'est vrai. Mais le relativisme devient mauvais à partir du moment où il est systématisé. Or, c'est ce qu'on a fait sur la base des développements des sciences humaines, en grande partie, au 19e siècle, au 20e siècle. Les sciences humaines ont expliqué que la notion d'objectivité, même s'agissant des sciences dures, était une notion illusoire. Même chose s'agissant des principes éthiques ou des principes moraux. On a expliqué en long et en large, c'était le cas de Barthes, par exemple, qu'il s'agissait de simples conventions, que ces conventions étaient variables d'une société à l'autre. Tous les anthropologues nous ont expliqué que les valeurs, les normes étant variables d'une société à l'autre, il était parfaitement illusoire de croire que ces normes et ces valeurs puissent être objectivement fondées. Bon, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup. Ces idées ont été développées en long et en large par toutes sortes d'auteurs. Et ça nous a donné un relativisme contradictoire avec lui-même, parce que le relativisme devrait inciter au doute. Il a incité au dogmatisme qui veut que les valeurs, les normes ne puissent pas être objectivement fondées, par exemple. Donc il s'est renversé, il est devenu quelque chose d'impossible, et c'est en ce sens, je crois, que c'est devenu une idéologie. Mais une idéologie, à la différence des idéologies précédentes qui ont été balayées par l'histoire, en réalité, elles étaient positives, elles étaient fausses, mais elles étaient positives. Ce relativisme est totalement négatif. Il vous explique que rien n'est fondé, que tout est variable, qu'on croit ceci là, c'est très bien, autre chose ailleurs, c'est très bien. Alors ça débouche sur pas grand-chose, sauf sur des choses assez négatives, comme l'idée, par exemple, très perverse, selon laquelle il ne pourrait pas y avoir d'intercompréhension entre les cultures. Enfin, l'idée selon laquelle les normes seraient arbitraires. Si les normes sont vraiment arbitraires, alors on peut accepter l'idée que certaines sociétés coupent la main des voleurs et puis que d'autres ne le fassent pas. Enfin,
est-ce qu'on ne pourrait pas rétorquer que ce relativisme ne serait que passager ? C'est une période de deuil des idéologies, justement, qui ont été très prégnantes à la fin du 19e, début du 20e siècle, des idéologies politiques surtout, et on est dans cette période de deuil où il y a un certain cynisme prégnant
avec
ce regard historique.
Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a certainement une vérité dans ce que vous dites. C'est vrai que les idéologies positives ayant été écartées en raison des désastres auxquels elles avaient abouti, le balancier est reparti dans l'autre sens, on est tombé sur cette idéologie négative, et c'est vrai que c'est une période de deuil. Simplement, comme tout de même les idéologies n'existent qu'à partir du moment où elles apparaissent comme fondées, elles ont été largement fondées tout de même par toutes sortes de mouvements en provenance des sciences humaines. J'ai prononcé tout à l'heure les noms de Barthes, etc. Ce qui se passe, c'est que ces idées, Étant donné qu'elles ont été défendues par des noms qui ont été pendant un certain temps très présents sur le marché, elles sont enseignées, et pas seulement en France, peut-être en France plus qu'ailleurs, mais pas seulement en France, elles sont enseignées, et là vous avez le phénomène de ce que j'appelle l'inertie du paquebot de l'enseignement, c'est-à-dire que Barthes a fait des petits, et les petits vont continuer de sévir pendant, disons, 20 ans, 30 ans peut-être. Donc, l'histoire des idées est une histoire très lente, moins lente que l'histoire des religions, mais extrêmement lente. Et par conséquent, ce que je redoute, c'est que la période de deuil dont vous parlez existe bel et bien, mais qu'elle se prolonge. Et en particulier, je pense que ce doute est à l'origine du sentiment de désarroi qu'on éprouve, qui s'exprime de différentes manières. Quand on parle de la crise du politique, etc., bah, c'est de ça qu'on parle. On a l'impression qu'on n'a plus vraiment de repères dans beaucoup de domaines, et on voit, vous voyez, que la période de doute se prolonge.
Alors parlons de l'application, de ce relativisme qui s'exprime également dans le politique, vous venez de le dire. Vous donnez un exemple de votre livre, l'exemple d'un parlement qui légifère sous la pression de groupes d'influence. Dernier exemple en date, la loi sur les effets positifs de la colonisation. Pour vous, c'est du relativisme, là encore?
Mais il y a une variable intermédiaire, c'est-à-dire que c'est des comportements anormaux ou étranges du point de vue de l'observateur extérieur, ces comportements qui consistent à prendre des lois pour vous dire ce qu'il faut penser des phénomènes historiques, ça a quand même quelque chose d'assez étrange, d'assez scandaleux. Enfin, jusqu'ici, on n'avait jamais pensé que le Parlement soit le lieu où doivent s'établir la vérité historique. On avait plutôt pensé jusqu'ici, avec bon sens, que c'était la communauté des historiens, sous le regard du public, qui déterminait les vérités historiques. Bah, voilà que le Parlement vous dit ce qu'il faut croire en matière historique. Quelquefois, il a raison. Il faut croire que la colonisation avait des effets négatifs, certainement. Ça, il faut le croire. Mais c'est pas au Parlement de nous obliger. Alors, je vois dans ce type de phénomène, ou bien dans le fait que autre exemple, dans le fait que vous ayez eu 150 000 amendements déposés pour bloquer une disposition de politique économique, c'est des comportements tout de même que le citoyen, qui étonnent le citoyen. On ne s'attend pas à ce que le Parlement se comporte comme ça. Bon, on a pris l'exemple du Parlement parce que vous m'avez incité, mais il y a d'autres exemples qui pourraient être pris où le comportement des acteurs politiques, d'autres acteurs politiques, de l'exécutif, est étrange. Alors, je pense que tout ceci, qui étonne le citoyen, je le crois, vient en grande partie de ce qu'on appelle dans le langage commun la perte des repères intellectuels, et je crois que tout ça s'inscrit dans cet univers de pensée un peu relativiste qui avait été résumé dans une formule géniale d'un philosophe américain: anything goes, tout est bon, tout est bon.
Raymond Boudon, nous marquons une toute petite pause.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Raymond Boudon, vous observez une propension des politiques à se diriger vers ce qu'on appelle la démocratie participative et à s'éloigner de plus en plus de la démocratie représentative qui est pourtant la base de nos démocraties. Et pour vous, ce n'est pas un mieux, au contraire?
Ça n'est pas un mieux pour deux raisons. La première raison, c'est que l'expression n'est pas claire. Autant vous pouvez associer à la notion de démocratie participative toute une littérature, toute une histoire des institutions extrêmement claire. Autant la notion de démocratie participative n'est pas claire du tout. Elle veut dire, si elle veut dire quelque chose, elle veut dire qu'il y a dans les sociétés toutes sortes de groupes qui ont des intérêts, que ces groupes méritent d'être entendus, c'est vrai, et qui méritent d'avoir un rôle dans le système de décision politique collective. Mais la question, c'est de savoir quel rôle. Et puis d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que ces groupes le plus souvent, et c'est parfaitement naturel, défendent des intérêts corporatistes. Or, il n'y a aucune nécessité à ce que les intérêts corporatistes coïncident avec l'intérêt général. Et là, il serait très facile de prendre des exemples. On voit par exemple qu'il y a un certain nombre de groupes corporatistes dans le système d'enseignement qui ne facilite pas l'évolution, la modernisation du système d'enseignement. Alors si démocratie participative, ça veut dire écouter des acteurs dont les intérêts sont essentiellement corporatistes et introduire une sorte de disposition ou de semi-disposition disant qu'on est obligé de les écouter, de tenir compte de leur avis, et à ce moment-là, cela introduit une confusion complète entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. Donc je trouve que la notion de démocratie participative est à la fois obscure et dangereuse.
C'est-à-dire que vous dites que ça aboutit à une sorte de compromis entre des avis qui tirent vers des intérêts différents, et sous ce prisme du relativisme, on se dit que voilà, tous ces avis sont relatifs, donc équivalents, et il suffit de faire une petite tambouille
C'est ça, je crois qu'on a malheureusement aujourd'hui une vision de ce type de la démocratie, où on a l'impression que la démocratie, ça consiste essentiellement, le Parlement est assez un rôle relativement effacé. On a l'impression que la démocratie se réduit à ce qu'on appelle d'un mot magique le dialogue entre l'exécutif et les groupes qui veulent bien descendre dans la rue, s'exprimer plus ou moins bruyamment. On a l'impression que le fonctionnement de la démocratie se réduit un petit peu à ça. C'était pas tout de même l'idée d'origine de ceux qui ont fondé et qui ont beaucoup réfléchi et qui ont fondé les institutions démocratiques. Et puis alors il y a un autre point qui a été établi par un sociologue économiste américain qui aurait eu le prix Nobel s'il n'était pas mort trop tôt, c'est Olson qui nous a expliqué qu'un petit groupe organisé peut avoir beaucoup plus de pouvoir qu'un grand groupe non organisé. Et vous voyez où cela va. Ça veut dire que si on donne trop de poids, ou si on donne un poids quasi officiel au groupe d'influence, ce que les sociologues appellent les groupes d'influence, eh bien, à ce moment-là, on a ce risque de voir des intérêts corporatistes prévaloir à l'encontre de l'intérêt général. Donc, il est, à mon avis, pour dire les choses de manière très, très simple, il est très urgent de redonner aux instances représentatives tout leur pouvoir. Alors malheureusement, ce pouvoir a été rodé d'une part par ce scepticisme, ce relativisme général, et rodé d'autre part par l'intervention très forte de vous, des médias, dans la vie politique. Mais je crois qu'il faut prendre conscience de ça, et puis retrouver la force des institutions représentatives.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une démocratie participative qui puisse ne pas juste donner la parole à ces groupes de pression, qui puisse justement redonner la parole à un spectateur impartial? On va revenir plus tard sur cette notion, quand on va venir à des choses concrètes, comme quand Ségolène Royal parle de jury populaire. Est-ce que ce n'est pas justement un mini-parlement où des gens seraient représentatifs justement d'une société et auraient cette vision impartiale sur la politique? Il y aurait ce dialogue qui a été rompu entre le politique et les citoyens.
Oui, la question, il y aurait beaucoup de questions. Comment les fabriquer, ces jurys populaires? Comment éviter que ne viennent dans ces jurys populaires? C'est un petit peu le problème des médias. Lorsque vous regardez le courrier des lecteurs n'est évidemment pas représentatif de la population en général. Eh bien, les jurys populaires, ça donnerait naturellement ce genre de biais. À mon avis, ça serait des canaux par lesquels passeraient des forces plutôt particularistes que générales. Alors, ceci dit, il faut naturellement écouter ce que disent les groupes particuliers, mais il ne faut pas leur donner d'aucune manière le même rôle qu'au Parlement, ou même un rôle approchant. Enfin.
Alors, pour venir sur le fond de votre propos, pour bien le saisir, on va peut-être mieux définir ce qu'est un spectateur impartial, un spectateur impartial que vous appelez de vos voeux, et qui pour vous n'est plus au centre de la démocratie aujourd'hui. Il existe ce spectateur impartial, c'est un citoyen de bon sens. sens, c'est ça ?
J'espère, sinon c'est à désespérer de tout, de la démocratie. Non, il y a dans la théorie de la démocratie cette idée qu'il existe pas toujours, ni tout le temps. Ben, il faut pas être naïf. Les gens, lorsqu'ils ont exprimé une opinion, lorsqu'ils expriment un choix, bien entendu, très souvent, ils obéissent à des passions, à des intérêts, à des préjugés. C'est tout à fait clair. Mais il y a toutes sortes de sujets sur lesquels le citoyen, il suffit de prendre un taxi pour voir immédiatement qu'il y a un tas de gens qui ont beaucoup de bon sens sur des sujets, notamment sur des sujets qui les concernent pas directement. L'idée du spectateur impartial qui vient d'Adam Smith, c'est une idée extrêmement profonde qui consiste à dire très simplement que lorsqu'on pose à quelqu'un une question qui ne met pas en jeu ses préjugés, ses passions ou ses intérêts, il peut quand même avoir une opinion, quelquefois une opinion très forte. Et alors, d'où vient cette opinion ? Eh bien, l'idée de base, l'idée optimiste, c'est que cette opinion va être dictée par le bon sens. Si on n'admet pas ça, la démocratie n'a plus de fondement, de base, si vous voulez. Alors, je prends un exemple, plusieurs fois, je crois, dans ce livre, c'est l'exemple de la peine de mort. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'elle a été abolie dans toute l'Europe. Que les gens ont finalement accepté l'idée qu'aucun politique, même lorsque sont apparus des crimes particulièrement odieux, par exemple les crimes de Dutroux en Belgique il y a quelques années, l'opinion publique a été très justement fortement ébranlée par ces crimes. On a fait des sondages et on a observé qu'il y avait une majorité de gens qui étaient pour la peine de mort, mais sur le long terme, non. L'idée que la peine de mort est une mauvaise chose a été accepté très très généralement, et on ne reviendra pas dessus en Europe. Et on considère que le fait que certains États des États-Unis l'emploient toujours, ou que la Chine l'emploie, on considère ça comme des tares, très naturellement, négativement. Donc il y a vraiment un consensus qui s'est fait sur cette idée. D'où vient ce consensus ? Eh bien, tout simplement que la plupart des gens, lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de la peine de mort, voilà un sujet sur lequel il n'y a pas de menace directe qui pèse sur eux. Donc, ils sont dans la position du spectateur impartial, et ils se disent quoi ? Ils se disent, en cas d'erreur judiciaire, il y a irréversibilité. D'autre part, on tente à savoir de mieux en mieux que toutes les études ont démontré que la peine de mort n'avait aucune valeur dissuasive. Alors, lorsque vous avez le risque que comporte l'irréversibilité de cette peine de mort, le fait que ça sert à rien du point de vue du contrôle social, du point de vue de la dissuasion, et d'autre part le fait également tout à fait évident que ça soit cruel, eh bien la réunion de ces trois raisons fait que le spectateur impartial va dire c'est très bien de s'en passer, trouvons autre chose.
Oui, mais à l'époque de l'abolition de la peine de mort en France, ces spectateurs impartiaux n'étaient pas majoritaires dans l'opinion publique.
C'est vrai, alors ça c'est la grande distinction de Rousseau entre la volonté générale et la volonté de tous. Parce que la notion de volonté générale chez Rousseau veut dire la même chose que le spectateur impartial. Il dit, si on prend des citoyens à qui on pose une question telle que ils soient tous dans une situation où leurs préjugés, leurs passions n'interviennent pas, à ce moment-là, ils vont prendre la décision conforme à l'intérêt général. Dans la pratique, et c'est la grande distinction de Rousseau entre la volonté générale et la volonté de tous, dans la pratique, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont être animés par leurs préjugés et leurs passions. Alors, effectivement, lorsque un crime particulièrement odieux est commis, ou lorsque la peine de mort n'était pas encore abolie, il y a toutes sortes de gens, il y avait une majorité de gens qui étaient pour. Vous avez raison. Mais il faut penser dans le long terme. Le spectateur impartial, il fonctionne dans le long terme. C'est lui qui explique des choses que le sociologue ne peut pas ne pas observer. Le fait que vous avez toutes sortes d'irréversibilités en matière économique, politique, etc., qui se produisent. Le fait que la peine de mort soit abolie et que ça soit accepté. Le fait, c'est un autre exemple que je prends, l'impôt progressif sur le revenu. ça a donné lieu pendant très longtemps à des discussions formidables et très agitées. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde considère que l'impôt progressif sur le revenu est une bonne chose. Il y a quelques économistes qui proposent de revenir sur la question, mais ils sont très marginaux. Pourquoi ? Parce que le spectateur impartial voit qu'il y a des raisons très, très faciles à énoncer, finalement. C'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de cohésion sociale. Il faut qu'il y ait un filet de protection. Il faut que ce filet de protection soit financé. Financé par qui ? Par la classe moyenne. Pourquoi ? Parce qu'elle est la plus nombreuse. Par conséquent, il faut qu'elle contribue au financement. Mais d'autre part, la classe moyenne n'acceptera pas que la classe la plus riche ne finance pas ce filet dans une proportion un petit peu plus grande. Donc, vous en tirez l'idée, l'impôt progressif sur le revenu est une bonne chose. Voilà un autre exemple où le spectateur impartial, il a mis du temps parce que, bien sûr, les discussions politiques, ça se passe pas dans le silence des cabinets ou des laboratoires, ça se passe sur la place publique, dans un climat de passion, quelquefois de violence, mais sur le long terme, il y a des irréversibilités qui se produisent. Pourquoi ces irréversibilités ? Parce que il y a des dispositions qui sont de bonnes choses.
Donc ce spectateur impartial a les données en main pour comprendre la société. C'est donc présupposé qu'il a les informations nécessaires, et on sait très bien que ces informations ne sont toujours que partielles, que beaucoup d'éléments échappent. Quand est-ce qu'un citoyen impartial peut se lever ?
Alors ça c'est vrai, il y a certaines questions techniques, savoir si le mariage entre Suez et Gaz de France doit se faire, bon, ça, c'était vraiment une question technique, mais vous avez aussi beaucoup de questions, comme les deux que je viens d'évoquer, qui sont très importantes quand même, où là, il n'y a pas besoin de connaissances spéciales. Ou bien, s'il y a besoin de connaissances, il est du rôle des politiques d'éclairer les citoyens. Par exemple, reprenons l'exemple de la peine de mort, parce qu'il est commode, il est très utile que les gens sachent que toutes les études, de même qu'on les informe sur des questions d'écologie ou des questions de médecine, enfin, ça, je crois que c'est un des grands rôles des politiques et des médias, enfin, d'informer les gens, ça se fait tout de même. Les gens sont beaucoup mieux informés aujourd'hui sur les risques du tabac qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Je vois pas pourquoi on pourrait pas les informer aussi sur des questions de politique ou de politique économique. Mais bien sûr, il faut, dès qu'une question est supposée, suppose des connaissances, suppose une information, eh bien, le rôle du politique ou du médiateur, c'est de mettre autant que possible ces informations à la disposition du citoyen.
Nous marquons une toute petite pause.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Pour que ce fonctionnement démocratique marche, vous remettez au goût du jour la séparation des pouvoirs, une séparation qui est si difficile à mettre en œuvre. On le voit quotidiennement déjà entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et vous appelez à ce que cette séparation des pouvoirs soit effective entre un nombre beaucoup plus conséquent de pouvoirs. Vous citez le pouvoir médiatique, social, économique, administratif. Vous allez au-delà de la séparation des trois pouvoirs de Montesquieu.
Oui, bien sûr. De Montesquieu, bien sûr. Oui, parce que des pouvoirs nouveaux se sont levés du temps de Montesquieu. Il n'y a pas de véritable pouvoir médiatique, enfin, par exemple. Donc, aussi, l'importance de la croissance économique fait qu'il y a un pouvoir économique surtout à l'époque de la globalisation, un pouvoir économique qui s'est de plus en plus détaché du reste. Alors, je crois que la grande question de Montesquieu, ou un autre grand nom de la tradition libérale, effectivement, les sociétés modernes retrouvent ce problème fondamental de Montesquieu avec, comme vous le disiez à l'instant, un nombre plus grand de pouvoirs médiatiques, etc. Alors, je crois qu'il faut prendre la question très sérieusement. Enfin, d'abord, pour en rester à l'étage classique. Je pense qu'il est indispensable que le Parlement, le législatif, retrouve plus de pouvoir qu'il n'a aujourd'hui. Une des difficultés des échecs européens ou des échecs bruxellois, c'est essentiellement que le système de pouvoir n'est tout de même pas démocratique, au sens où le Parlement n'a pas un véritable rôle décisionnel. Il a de plus en plus de rôles, mais pas assez. Il n'a pas un rôle qui correspond à celui qui devrait être le sien, selon la théorie classique des démocraties. Je crois que ça explique, dans une très grande mesure, le dérapage de l'Europe. Le pouvoir économique, on voit très bien que la question se pose, que le pouvoir économique ne déborde pas sur le pouvoir politique. C'est pourquoi des dispositions ont été prises pour clarifier, rendre le financement des partis beaucoup plus transparent. Donc, on suppose...
On est encore loin. Encore.
On en est encore loin, c'est pour ça qu'il y a un philosophe politique anglais de mes amis qui propose d'instaurer un système de bons, de vouchers. C'est-à-dire que chaque citoyen recevrait un carnet de bons qui distribuerait au parti de son choix et qui correspondrait à une certaine somme. Chacun de ces bons correspondrait à une certaine somme. Et le reste, tout autre mode de financement, serait traité comme de la corruption. Tout simplement. Alors peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aboutira à des systèmes comme ça, mais c'est certainement un grand problème que d'aboutir à une distinction claire entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Il ne faut pas que le pouvoir économique influe sur le politique. Plus compliqué encore est l'indépendance du pouvoir médiatique, parce que lui, il est polymorphe, diffus, mais on sent aussi que c'est un problème pour le citoyen. Le citoyen, le spectateur impartial, n'aime pas que tel journaliste influent et bien en cours exerce une influence sur ses choix politiques. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Ça crée, c'est pas bon pour personne. Ça n'est bon ni pour la démocratie, ni pour les journalistes, parce que c'est perçu comme un excès de pouvoir. Donc là, il y a un problème qui est encore beaucoup plus délicat à résoudre que dans le cas du pouvoir économique et de la séparation du pouvoir économique. Il y a ce que Tocqueville appelait déjà le pouvoir social. Le pouvoir social, ben, on voit très bien qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont faits pour défendre les intérêts de tel ou tel groupe social. Quelquefois, ils débordent leur rôle et ils prennent un rôle politique. Nous citions tout à l'heure le cas des syndicats d'enseignants, par exemple. C'est très important qu'il soit là, c'est très important qu'il soit fort, mais ça n'est pas normal qu'il joue un rôle politique, ça n'est pas leur rôle. Enfin, et malheureusement, on est loin aussi de cette situation. Donc je crois que très concrètement, à la fois au niveau pratique de la vie de la démocratie et au niveau théorique, il faut vraiment repenser à frais nouveaux le problème de la séparation des pouvoirs. Et j'ai l'impression que tout pas en avant dans la direction d'une bonne solution de ce problème de la séparation du pouvoir réconciliera le spectateur impartial, le citoyen, avec le politique.
Une réconciliation qui est absolument nécessaire.
Nécessaire, oui.
Surtout quand on parle de démocratie représentative, puisqu'il faut cette confiance entre le citoyen et son représentant.
Oui.
Et justement, une des clés aussi, peut-être pour résoudre la crise de la démocratie que l'on connaît aujourd'hui en France notamment, c'est celle de la représentativité. Si on refuse la démocratie participative dans les différents débordements qu'elle pourrait avoir, et si on met en avant la démocratie représentative, c'est donc que ses représentants sont réellement représentatif du citoyen impartial. Et cette représentativité, on dirait qu'elle n'a pas forcément lieu, que cette, ce miroir entre le citoyen et le représentant est cassé.
Oui, parce qu'on a parfois l'impression que les parlementaires eux-mêmes ne croient pas, premièrement les institutions à mon avis, mais ça, ça n'engage que moi, les institutions actuelles ne donnent pas un rôle suffisant au Parlement, qui est tout de même l'endroit normal où doivent s'élaborer les politiques. L'exécutif, comme son nom l'indique, est ensuite fait pour exécuter. Bon, alors, il me semble que comme les institutions sont un peu confuses, que les gens, à commencer par les représentants de la nation, vivent un peu dans cette espèce de confusion intellectuelle où ils ont l'impression que le pouvoir, l'influence, etc. viennent un peu de partout, des médias, de la rue. Et on a l'impression qu'eux-mêmes ne prennent pas suffisamment au sérieux leur rôle de représentant. Mais c'est pas uniquement leur faute. Hein. C'est la faute des institutions qui sont devenues pas clair, c'est la faute aussi des intellectuels qui ne donnent pas des visions claires de ce qu'est la démocratie, de ce qu'elle devrait être. On parlait tout à l'heure du contrôle du pouvoir médiatique. C'est très difficile de le faire directement, mais il y a un moyen indirect de le faire. Si le Parlement retrouve un rôle vraiment central, qu'il a beaucoup plus, par exemple, aux États-Unis qu'en France, à ce moment-là, le pouvoir médiatique est automatiquement réduit. Et on voit très bien aux États-Unis qu'il y a des choses importantes qui se passent au Congrès, et que les enquêtes sur les personnes, les enquêtes sur les dispositions, etc.
C'est un véritable contre-pouvoir.
C'est un véritable contre-pouvoir qui, je crois, fait que le pouvoir médiatique américain, même s'il existe, est tout de même moins fort relativement que le pouvoir français, parce que le pouvoir du Congrès est beaucoup plus fort.
Par le fait de la séparation des pouvoirs et non des questions de représentativité dans le cas des États-Unis.
Oui, essentiellement pour les questions de clarté dans la division des pouvoirs.
Est-ce que vous seriez favorable à plus de proportionnel au Parlement, à des questions de quotas pour avoir...
Oui, je pense qu'il n'est pas normal qu'une grande partie de l'opinion sache que d'avance que sa voix ne comptera pas, ne donnera pas un seul représentant. Je crois que ce n'est pas normal. Ma préférence... Alors, ces choses-là sont des questions très, très compliquées. Et puis, ça se déclenche facilement. Des phénomènes d'apprentis sorciers, etc. Mais je crois qu'un système raisonnable, c'est le système allemand qui mélange les deux.
Une dose de proportionnel et
une certaine dose de proportionnel qui évite tout de même ce système brutal où vous avez des millions de gens qui ont une certaine opinion et dont on sait d'avance que leur opinion ne sert à rien. Ça donne lieu à des calculs, c'est très pervers, parce que ça donne lieu à des calculs. Il y en a qui s'en aperçoivent que leur voix ne va servir à rien, donc ils vont voter pour un parti qui ne les intéresse pas du tout, mais nous avons l'impression que ce sera ce qu'on appelle un vote utile. Donc, non, je crois qu'il y a aussi là quelque chose à faire.
Pour conclure, j'aimerais qu'on revienne sur un postulat qui me paraît fondamental dans vos propos, et j'aimerais qu'on en discute. Le postulat que je vous cite, dans une démocratie représentative, le représentant est placé sous le regard du spectateur impartial. Il doit donc chercher à anticiper et respecter ses jugements. C'est donc un dialogue, même vous parlez de regard,
oui,
qu'il y a entre le citoyen et le représentant. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, ce dialogue n'a pas lieu. En fait.
Ce dialogue n'a pas lieu en partie pour les raisons que nous indiquions il y a un instant, c'est-à-dire que le représentant n'a pas le rôle important, clair, net, bien précis, qui devrait être le sien normalement. Enfin, alors, quant au spectateur impartial, comment savoir ce qu'il pense, le spectateur impartial ?
Est-ce que les sondages ?
Oui, les sondages.
Ou le référendum local, qu'est-ce qui pourrait...
Ah ben, le référendum local, ce serait, je crois, important qu'on l'utilise un petit peu plus.
Enfin, mais n'est-ce pas là de la démocratie participative ?
Non, il y a tout de même certains sujets de fond où on peut avoir une dimension. Rien n'indique qu'il faille avoir ou bien la démocratie plutôt directe que participative et sur certains sujets, et puis la démocratie représentative sur la plupart des sujets. Rien n'impose que la constitution suisse, qui est pas mauvaise d'ailleurs, soit adoptée par tout le monde. Maintenant, il y a tout de même des moyens directs de savoir ce que pense le spectateur impartial. On parlait des sondages. Ils ont mauvaise presse, à mon avis, pour de mauvaises raisons. Parce que le sondage, c'est tout de même un moyen très important de renseigner, à partir du moment où ils sont utilisés de manière convenable, je sais bien qu'il y a des sondages truqués, mais à partir du moment où un sondage est scientifiquement honnête, il peut être, la question est ensuite de savoir comment il est utilisé. Et j'ai dans le livre un exemple où on a un sondage sur la Cour de justice de la République. Eh bien, on s'aperçoit dans ce sondage que les Français ne veulent pas que les politiques soient traités autrement que le citoyen ordinaire. Et le sondage est très significatif, à une très très forte majorité, les Français pensent ça. Voilà ce que dit le spectateur impartial, parce que là, les gens sont dans la position du spectateur impartial, puisque par définition, dans une très grande majorité, ils ne sont pas eux-mêmes ni des politiques, ni des candidats à la politique. Donc, quand on leur pose la question de savoir est-ce que la Cour de justice de la République qui traite le politique de manière différente du citoyen, c'est une bonne chose ou non, eh ben, à 75-80 ou même plus pour cent, ils répondent non, c'est pas une bonne chose. Ben c'est une indication, hein, c'est une indication importante. Je cite cet exemple parce qu'à ma connaissance, ça n'a jamais interpellé personne. Hein. Mais je cite cet exemple pour montrer que les sondages peuvent être un instrument précieux d'information s'ils sont bien utilisés. Seulement, il faut savoir les lire. La difficulté, c'est que les sondages sont utilisés de manière à court terme et pour des intérêts très immédiats. C'est-à-dire que l'homme politique veut savoir si sa cote remonte, descende. Pour lui, c'est important. Ça n'est pas très important en soi. Mais il y a dans les données de sondage, quand ils sont bien faits, il y a des trésors sur ce que pense le spectateur impartial. C'était la grande idée de mon bon maître Jean Stoetzel, à qui j'ai succédé à l'Académie des sciences morales et politiques. Son idée, c'était que le sondage bien fait, scientifique, etc., était un moyen d'éviter un péril majeur des démocraties, à savoir que les politiques confondent l'opinion des médias et des intellectuels avec l'opinion tout court. Et c'est bien vrai, on sait très bien que l'opinion des médiateurs ou des intellectuels ne correspond pas du tout à l'opinion tout court sur bien des sujets. Donc je pense qu'un instrument comme le sondage est un moyen pratique. Il faut les prendre au sérieux, contrairement à ce que nous dit un poncif actuellement où il est de bon ton de les mépriser, mais c'est un point essentiel. Puis d'autre part, alors l'idée de base, c'est qu'à partir du moment où le Parlement aurait une importance aussi grande que le Congrès américain, à ce moment-là, le représentant agirait de manière plus soucieuse. Il se soucierait davantage d'essayer de savoir ce que pense le spectateur impartial.
Merci beaucoup Raymond Boudon pour cette mise à plat salvatrice de la démocratie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Renouveler la démocratie, éloge du sens commun » paru en 2006 chez Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci à vous.